Voyage et aventure autour du monde de Robert Kergorieux par Philibert Audebrand. Prologue. La vieillesse de Robert Surcouf. Un jour de soleil. Jacques le matelot. La pipe du corsaire. Un enfant. Confidence. Robert Kergorieux. Vœux du parrain. Projet d'un voyage autour du monde. Lègue à un vieux serviteur. Mort de Robert Surcouf. Vers les derniers jours du mois de septembre, en 1827, une scène touchante se passait sur les côtes de la Bretagne, à Saint-Servan, près de Saint-Malo. L'automne commençait. Un vent frais et déjà un peu sec, qui soufflait de la mer, poussait les feuilles jaunies des marronniers jusque sur le seuil d'une petite maison à toit rouge et à volets verts, construite sur une éminence comme un nid d'aigle sur un rocher. Il était 10 heures du matin. Un vieillard à figure martiale était assis à une fenêtre du levant sur un fauteuil de cuir. Quoiqu'une pâleur de sinistre augure s'étendît sur ses joues, il y avait encore une certaine fermeté sur les divers traits de son visage. Les lèvres n'hésitaient pas à sourire, surtout au moment où le soleil, un peu plus chaud, sortit d'un nuage et attiédit tout à coup l'atmosphère. « Voilà un beau soleil qui me rappelle mes belles journées de l'Inde », dit alors le vieillard d'une voix tout à la fois faible et énergique. En même temps, il faisait signe de la main à un vieux serviteur de s'approcher de son fauteuil. « Jacques, lui dit-il, ne me tiens pas tête, ainsi que tu as la louable habitude de le faire. Il me vient une fantaisie de malade à laquelle je ne veux pas résister plus longtemps. » « Capitaine, répondit celui qu'il venait d'appeler, vous savez d'avance que je refuserai mordicus tout ce qui pourrait contrarier les ordonnances du médecin. » À ce dernier mot, le malade fit un bond sur son fauteuil. « Le médecin ! Ah, c'est juste, Jacques ! J'oubliais que je suis entre les mains de cet ancien carabin de l'hôpital de Brest. Depuis 10 jours que mes rhumatismes et mes blessures me paralysent, l'homme de la science me torture comme un Anglais du temps de Nelson ne l'eût jamais fait. Mille sabords ! Que de tisanes émollientes et que de tisanes sucrées vous me faites prendre à vous deux. Belle distraction, en vérité, pour un vieux loup de mer qui n'a jamais aimé que le tafia de la Jamaïque. Eh bien, tiens, Jacques, c'est précisément à cause de tous ces breuvages sans saveur qu'il m'arrive une fantaisie. Donne-moi ma pipe. » Ici, Jacques parut hésiter. « Ne vas-tu pas te faire retirer l'oreille pour si peu de choses ?» reprit le vieillard. « Une pincée de tabac de Smyrne que je brûlerai à moitié au grand air afin de saluer une dernière fois ce beau soleil d'automne. Quel grand mal cela pourrait-il me faire ? Ah, si je te demandais un petit verre de genièvre ou 2 grains d'opium, à la bonne heure, je comprendrais ta résistance. Mais pour ma pipe, rien n'est plus innocent. » « En conscience, tu ne peux me la refuser. » Jacques se mit à regarder son maître avec un certain air d'attendrissement. « Au fait, capitaine, reprit-il, j'ai beau tourner et retourner dans mes mains l'ordonnance du docteur, je n'y trouve pas une ligne qui prohibe la pipe. Ainsi, comme il n'y a pas de défense, je n'ai qu'à vous obéir, mais cependant, « ce sera à une condition. »« Laquelle, don maître raisonneur ? » ?»« C'est que vous ne la garderez pas plus de 10 minutes. »« Soit, répondit le vieillard en souriant, 10 minutes suffisent pour m'aider à penser à mon rêve. » Lorsque Jacques, qui avait fini par s'exécuter, lui eut donné une longue bourse de cachemire brodée, qui servait de blague à tabac, le vieillard reprit. « Entre nous, mon pauvre Jacques, toutes les grandes précautions du médecin sont bien des mesures prises en pure perte. Il vaudrait autant ne plus rien me défendre. Je n'irai pas loin, je le sens bien. »« Capitaine, Ne parlez pas sur ce ton-là, je vous en prie, si vous ne voulez point affliger votre vieux Jacques. Vous avez encore bonne façon. Traversons cet hiver, et vous reverdirez au printemps. Jacques, ce sont là de ces jolies choses qu'on chante aux têtes folles. Quant à moi, je sais bien où j'en suis. Il n'y a plus d'huile dans la lampe, comme on dit. Un peu plus tôt, un peu plus tard, que m'importe l'heure où je prendrai ma feuille de route pour l'autre monde, puisqu'il faut que je parte. Tu sais bien, d'ailleurs, que la mort n'a jamais fait peur à Robert Surcouf. Robert Surcouf était, en effet, le vieillard de la petite maison de Saint-Servant, l'intrépide corsaire qui, pendant 30 années, avait été la terreur des Anglais, voyait finir sur la terre sa vie agitée. Il s'éteignait dans le calme, sous un toit modeste, assis sur un fauteuil, servi par un matelot qui l'avait accompagné jadis, tout enfant, dans ses courses à travers les mers d'Europe et d'Asie. Plein de sérénité et de courage, il aurait eu honte de faiblir à l'approche de ce que, dans son langage de marin, il appelait la dernière tempête et la dernière bataille de la vie. Jacques venait de lui donner du feu. « Je reviens à ce que je te disais il y a un instant, » reprit Robert Surcouf. « Si je tiens tant à fumer ma pipe ce matin, c'est pour m'aider à fixer ma pensée sur un article délicat de mon testament. » Ici, le capitaine Surcouf tira de sa bouche 2 ou 3 gorgées de fumée et il ajouta « Voilà bientôt 4 ans, dans un temps où je pouvais encore me servir de mes jambes, je revenais de Saint-Malo à pied, appuyé sur cette canne à pommeau d'ivoire que j'ai rapportée de mes voyages et qui a appartenu à Tipou Saïb. Le jour baissait. Au détour du chemin connu sous le nom de chêne tordu, je me rencontrai avec une femme tout en larmes. On a beau avoir vécu toute sa vie entre le ciel et l'eau, la hache à la main, assis auprès d'un baril de poudre, on n'en a pas moins un cœur capable de s'attendrir. Or, j'étais d'autant plus porté à me sentir ému que celle qui pleurait était la sœur de Luc Kergorieux, l'un de nos vieux compagnons d'armes, ex-matelot de la Foudroyante. « Eh, qu'avez-vous donc tant à vous lamenter ainsi, Yvonne ?» lui demandai-je. « Capitaine, » me répondit-elle en essuyant ses yeux du coin de son tablier, « un double et terrible malheur vient de frapper notre pauvre maison. Mon frère Luc Kergorieux est mort dans un dernier voyage du côté de la terre de Van Diemen, où il était allé pour une dernière fois à la pêche de la baleine. On en a reçu la nouvelle hier par l'Alcyon, qui revient de ses parages.
Luc était un brave marin et un honnête homme. Voilà en effet un grand malheur, Yvonne.
Ah, capitaine, ce n'est pas le seul, allez.
Qu'y a-t-il donc encore ?
Vous savez que Luc Kergorieux s'était marié, il y a 1 an, avec une jeune femme du Morbihan. Lorsque la sinistre nouvelle nous est parvenue, la pauvre Maëric venait justement de mettre au monde un gros garçon, rose et joufflu comme une cerise de Normandie.
Eh bien, Yvonne, qu'en est-il résulté ?
Capitaine, la pauvre Maëric fut tellement saisie de tristesse qu'elle en est morte 2 heures après. Et voilà un enfant sans père ni mère.
En parlant ainsi, elle se remettait à pleurer. Je n'y pus tenir et lui tendant la main, « Yvonne, lui dis-je, vous ne dites vrai qu'à demi. L'orphelin n'a plus ni père ni mère, mais il aura en moi un parrain qui lui tiendra lieu de l'un et de l'autre. Robert Surcouf est bien vieux. Il n'a plus sans doute que peu de temps à vivre. Néanmoins, il adopte le marmot. Si par malheur il vient à partir trop rapidement, ce sera à la grâce de Dieu. L'enfant aura toujours eu un peu de bon temps. Yvonne pleurait toujours, mon pauvre Jacques.
Sans doute, capitaine, mais ce ne devait pas être de la même manière.
En effet, il y avait sur ses yeux, à travers ses larmes, un certain rayon de contentement. La bonne femme me remercia avec effusion. Dès le soir même, on apporta dans cette petite maison le berceau du fils de Kergorieux. Dès la nuit suivante, nous avons été, toi et moi, changés en père nourricier de ce gaillard qui promettait déjà d'être un vrai diable à quatre. Tandis que je le faisais sauter sur mes genoux en fredonnant des chansons de tous les pays, tu lui faisais boire du lait de chèvre. Avec le temps, ses soins lui ont profité. Il a grandi, il marche seul. Tout annonce qu'il sera vigoureux et brave. Il porte déjà fort dignement le nom de Robert que je lui ai donné sur les fonds de baptême. Mais, comme son père, je vais partir, moi aussi, mon pauvre Jacques, pour mon dernier voyage. Ici, le capitaine prit un petit temps de repos. Jacques, c'est précisément à tout cela que se rapporte l'idée dont je voulais t'entretenir.
Parlez, capitaine.
Tu comprends bien qu'un enfant de la Bretagne, un fils de Kergorieux, un filleul de Robert Surcouf, un nourrisson de Jacques, ne peut être qu'un marin. Cependant, on a vu des bizarreries où la nature a l'air de se déjuger elle-même. Quand l'heure d'être un homme sonnera pour mon filleul, à quelle chose sera-t-il propre? Je désire qu'il soit loup de mer comme tant d'honnêtes gens. Pourtant, il peut se faire qu'il ait plutôt en lui l'étoffe d'un notaire, d'un douanier, d'un avocat ou de tout autre gratte-papier. Afin qu'il n'y ait aucun doute sur ce point, j'ai donc imaginé un expédient pour la réussite duquel j'ai grand besoin de ton dévouement. Vous savez, capitaine, que je n'ai rien à vous refuser. Si je meurs ces jours-ci, comme tout l'indique, l'enfant ne cessera point d'être placé sous ta tutelle. Tu l'élèveras dans l'amour de la mer, en le faisant jouer sur le rivage et en lui rappelant le passé de son parrain. Aussitôt qu'il approchera de sa 15e année, tu songeras à faire avec lui un voyage au long cours. Des fonds sont destinés à cet objet. Tu les trouveras chez l'agent d'affaires chargé de mes intérêts. Après t'être pourvu de 2 camarades de Robert, choisis de préférence parmi les enfants du peuple, tu t'embarqueras avec ton élève dans le but de lui faire faire le tour du monde. Vous visiterez ainsi de compagnie l'Arabie, l'Égypte, la mer Rouge, la Perse, les Indes, la Chine, le Japon, un archipel qu'on nomme l'Océanie, les 2 Amériques et le Levant. Au retour, tu examineras mûrement le résultat de cette traversée. Si Robert n'a pas de goût pour l'eau salée, pour la vie aventureuse et pour les divers soleils que vous aurez vu luire, tu t'arrêteras au projet d'en faire un personnage sédentaire, quelque chose comme un homme de loi. Si, au contraire, il a souri au milieu des tempêtes, si la vie du matelot lui a plu, si l'aspect des contrées changeantes a allumé dans son jeune esprit la flamme si vive de la curiosité et de l'intérêt, tu trouveras dans mon testament un article spécial pour lui, et tu te mettras sans retard en mesure d'en faire accomplir l'exécution. M'as-tu bien compris, Jacques ?
Fort bien, capitaine, rien ne m'a échappé. Cette longue conversation ayant communiqué à Robert Surcouf une subite fatigue, il se tut un instant, puis, reprenant,
« Jacques, dit-il, tu es un bon et loyal serviteur. Ton vieil ami ne t'a pas oublié. Mais en raison de la circonstance, et en attendant un autre legs, il veut te faire un cadeau. »
« Quel cadeau, capitaine ?» demanda le marin. Robert Surcouf tira de sa bouche, qu'il forçait à sourire, sa belle pipe à bout d'ambre.
« Tiens, dit-il, je viens de la fumer pour la dernière fois. C'est maintenant à toi qu'elle appartient. »«
Capitaine, il est bien vrai ? Vous me donnez votre pipe ?»«
Je l'ai fumée, tu te le rappelles ?» Peut-être 100 fois en présence de l'ennemi. L'Anglais la connaît bien, va. Les grands amiraux de l'autre côté de l'océan redoutaient autant sa fumée que celle de nos canonnières. Dans les mers de l'Inde, elle est passée à l'état de légende. En Bretagne, elle n'est pas moins populaire que la pipe de notre immortel Jean Bart. Après moi, qui pourrait la porter plus dignement que celui qui, placé tout jeune près de moi, ne m'a pas quitté un jour depuis 30 ans, à terre et sur mer. » En achevant ces paroles, il tendit la pipe à Jacques, qui ne pouvait contenir son émotion.
« Que vois-je là, Jacques ? » dit le corsaire. « 1000 sabords, il me semble que tu pleures. Un vieux marin, un loup de mer, y songes-tu ? Allons, renferme en toi-même ton accès de tristesse et n'oublie pas mes recommandations. »
Jacques se détourna un peu afin de dissimuler une larme qui pendait à ses cils blancs. « Capitaine, poursuivit-il en s'efforçant de prendre un air enjoué, tout ce que vous venez de me dire m'a attendri, je l'avoue. On ne touche pas à ce qu'on révère sans céder à un mouvement d'émotion. Dame, j'avais toujours considéré votre pipe comme un objet sacré. Mais entre nous, rien ne presse. Vous auriez pu remettre à un autre temps le soin de m'annoncer vos intentions. Dieu merci, Robert Surcouf peut encore fumer du tabac d'Orient sur le seuil de sa petite maison. Mon bon Jacques, je te connais. Si je te laissais faire, tu en dirais jusqu'à demain sur ce ton-là. Pas un mot de plus. Ah, je sais où j'en suis, mais qu'importe. Je finirai bien, sois tranquille. J'ai vu assez souvent la mort en face pour ne pas la craindre. Tiens pour bien dit ce qui est convenu entre nous et bon courage. » En achevant ces mots, il lui serra affectueusement la main. À 3 mois de cette scène, Robert Surcouf rendait le dernier soupir. « Je ne perds plus de vue le filleul de mon capitaine, » disait le vieux Jacques.